Il était absent la semaine dernière. J'ai comme l'impression qu'il va avoir envie de faire un peu de rattrapage sportif avec nous. Olivier Beauregard, bonjour.
Ah, ton impression est bonne.
Parce que la semaine passée, si tu avais été là à la chronique, tu nous aurais sûrement parlé du congédiement de Marc Bergevin. Comme l'impression que là, ben, la dernière semaine n'a fait qu'alimenter ce que tu aurais eu à nous dire. Les rumeurs ont continué de surfer, ouais, à sortir ici et là. Donc, à chaud, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis. Ta réaction au congédiement, finalement?
Ben écoute, ça m'a permis aussi, là, cette période-là, là, de me faire une tête, parce que j'étais des médicaments par-dessus la tête la semaine dernière. J'aurais pas été capable de faire une analyse complète. Alors, écoute, la première réaction que j'ai, c'était une évidence.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux dire, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien à Montréal. On sent que non seulement les partisans ont lâché, mais que certains joueurs aussi ont lâché, ont peut-être abandonné. On sentait vraiment que cette équipe-là allait nulle part. Marc Bergevin s'adressait pas à la foule plus qu'il fallait. Je dis à la foule, mais aux partisans, mm-hmm, à travers les médias. Puis dans des situations comme ça, il nous a habitués, pendant son règne de 10 ans, à souvent venir dans les médias et dire, écoutez, je sais que ça va pas bien, on va avoir des changements ou non. On continue, je crois, à ce groupe-là. Il l'a fait à quelques reprises. Mais là, tu sais, il se passait absolument rien.
Mm-hmm.
Alors, fallait s'attendre à ce que Marc Bergevin soit congédié. La façon que ça a été fait, ça a dû être blessant un petit peu, par exemple, parce que ça a sorti dans les médias avant même que Marc Bergevin soit prévenu. En fait, ce qu'on dit, c'est que il y a eu des entrevues pour le poste de directeur général avant même qu'on congédie Marc Bergevin. Et il l'a appris via les réseaux sociaux. Alors,
ouais, puis il était pas au travail, il était chez eux, je pense, en protocole COVID, là, c'est ça?
Exactement, tu sais, fait que quoi de mieux que rentrer les candidats potentiels au Centre Bell quand ton grand patron peut pas être là, mm-hmm, parce qu'il fait un protocole de la COVID. Écoute, je suis pas là pour analyser la façon dont Jeff Monson s'est comporté. Je suis là pour te dire, par contre, que évidemment, et inévitablement, ça allait passer par cette étape-là. Disons qu'on s'en attendait déjà là, que Marc Bergevin n'allait pas être de retour, mais moi, dans ma tête, il allait probablement terminer la saison.
Okay.
Écoute, maintenant que c'est terminé, merci Marc, on revient en arrière, là, 10 ans là, au sein de la même organisation, c'est énorme. Dans une organisation qui a autant de pression, dans un poste qui est probablement le poste le plus important au Québec, il a fait un travail exemplaire. Je veux dire, ça n'a pas toujours été rose, mais le Canadien de Montréal a quand même connu de bons moments. Puis c'est lui qui a ramené l'équipe à une finale de la Coupe Stanley depuis 1993. Alors, chapeau Marc, bravo, beau travail. Va te reposer maintenant parce que tu as de l'air fatigué, mon ami. Je pense que ça a été très, très dur, surtout la dernière année avec la pandémie, tout, mm-hmm, ça. Là. Beaucoup de gestion. Alors, moi, je veux juste lever mon chapeau à Marc Bergevin. Maintenant, quand on regarde le scénario pour le Canadien de Montréal dans l'avenir...
Ouais, qui va prendre sa place, Olivier?
Je pense que dans le fond, on a une partie de la réponse du côté du Canadien, parce qu'avec l'embauche de Jeff Gorton comme, si tu veux, responsable des opérations hockey, ben on sait un peu dans quelle, si tu veux, branche ou dans quel chemin va prendre le Canadien au courant des prochaines années. Jeff Gorton, pour les gens qui ne le connaissent pas, ben il a fait partie de la restructuration de l'organisation des Bruins de Boston à une certaine époque.
Okay.
Et par la suite, les Rangers de New York qui, dans le fond, là, viennent tout juste de passer d'étape de la reconstruction. Puis là, on dit que c'est une équipe compétitive qui est pas encore à maturité, mais qui s'en va vers ce chemin-là. Et c'est Jeff Gorton qui a fait le travail derrière ça. Alors, c'est un gars qui est habitué d'avoir beaucoup de pain sur la planche. C'est un gars qui arrive dans une formation qui, visiblement, va devoir avoir beaucoup de travail à faire dans l'entre-saison, peut-être, mm-hmm, même aussi à la période de transaction. Donc, ce sera pas facile de se départir de tous les contrats, là, mais il y a beaucoup de travail. Alors, tu sais, ça, c'est une partie de la réponse. La raison pour laquelle ce gars-là n'a pas le rôle de directeur général, Sébastien, c'est pas compliqué, il parle pas français.
Mm-hmm.
C'est la seule raison. C'est la seule raison, parce que si Jeff Gorton était capable de parler en français, on parlerait même pas en ce moment d'un processus d'embauche pour un directeur général. Ce gars-là aurait tout ce que tu veux comme qualification pour le faire. Évidemment, dans un marché comme Montréal, t'as pas le choix de parler français. Là, maintenant, c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir travailler avec Gorton. Et faut pas oublier, là, ça peut pas être n'importe qui. Ça prend quelqu'un qui va écouter ce que Gorton fait.
Ben, c'est ça, parce que dans le fond, est-ce qu'on va se ramasser avec un directeur général de façade, puis que le gros de la job, c'est Gorton qui va la faire en arrière?
Ben, écoute, moi, c'est l'impression que ça me donne.
Okay. Hein,
parce qu'on lui donne tellement de mérite en ce moment. Jeff Monson le disait la semaine dernière, il dit, Jeff Gorton est un gars tellement de bonne tête d'hockey, il sait comment bâtir une concession, il sait comment repartir une franchise, etc., etc., mais comment ça se fait que ce gars-là n'est pas directeur général. Alors, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on va plus se chercher quelqu'un qui est malléable, probablement un directeur général qui n'a pas d'expérience comme directeur général dans la Ligue nationale. Tu sais, moi, j'entendais les gens parler de Patrick Roy. Pensez-vous vraiment que Patrick Roy va se faire dire quoi faire à tous les jours?
Non.
Ça m'étonnerait, là. Honnêtement, là. Tu sais, je pense que c'est plus envisageable d'aller vers un gars qui est en train de faire ses classes, un gars qui va avoir le statut de directeur général, mais qui va avoir beaucoup d'aide pour tout ce qui est hockey, tout ce qui est transactions, etc. En tout cas, on verra comment le Canadien va vouloir travailler, mais c'est pas la première fois qu'on voit, dans le fond, un bureau administratif comme ça dans la Ligue nationale. Tu peux prendre, si tu veux, un peu la formule des livres de Toronto en ce moment avec Kyle Dubas et t'as également Brendan Shanahan qui est là. Je veux dire, c'est un peu la même formule. On a vu ça ailleurs. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais évidemment qu'un directeur général qui emmenait l'âge comme Marc Bergevin, j'ai l'impression que ça sera pas la même chose à Montréal pour les prochaines années. Bref, ça sera à voir. Je parlerai pas de candidats potentiels parce qu'il y en a tellement. Puis ça dépend vraiment de ce que le Canadien a décidé de faire. Tu sais, est-ce qu'on y va pour un coup d'éclat, puis on y va avec un gros nom, ou est-ce qu'on y va avec probablement quelqu'un qui veut vraiment devenir DG, puis quelqu'un qui est prêt à faire ses classes? Si c'est le cas, il y a des candidats vraiment intéressants. Je pense à Daniel Brière, entre autres. Mais ça sera à voir qui veut travailler dans ce format-là avec le Canadien de Montréal.
Sinon, ben, on reste dans le monde du hockey. Ce soir, ben, ça pourrait être la 500e victoire en carrière pour Marc-André Fleury, puis ça se passerait à Montréal.
Ben, écoute, le scénario rêvé, je veux dire, Marc-André Fleury vient dans un club très sélect, si tu veux, là, avec cette victoire-là ce soir. Moi, je pense que le scénario est vraiment rêvé. Puis ce qui est intéressant, c'est que les Hawks lui permettent de vivre ça à Montréal, chez lui, devant son monde. Écoute, Marc-André Fleury, là, moi, là, je pense qu'il va être très, très dur à percer ce soir. Ce gars-là n'a pas besoin de motivation pour jouer du bon hockey, mais je pense que c'est une motivation supplémentaire qui va faire en sorte qu'il risque d'être très, très bon. Chapeau, c'est un gardien comme il s'en fait très, très peu. C'est un gars qui a connu une carrière incroyable, puis elle n'est pas terminée. Puis je trouve ça intéressant parce que Marc-André Fleury, puis je pense qu'on s'en est parlé récemment, mais tu sais, au Canada, on ne forme plus autant de gardiens de but qu'on en formait déjà jadis. Et quand on passe aux Jeux olympiques de cette année, ben Marc-André Fleury devient un candidat probablement idéal, un candidat numéro un si Carey Price n'est pas en mesure de faire un retour. Moi, je pense que Marc-André Fleury est en train de s'acheter une place de partant, si tu veux, avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. En tout cas, je lui souhaite. Et ça prouve toute la résilience qu'il y a, ce gars-là. Ce gars-là a été échangé des Penguins de Pittsburgh. Puis encore aujourd'hui, c'est contesté, cette transaction-là, parce que Matt Murray, il se retrouve à Ottawa. On le renvoie on le soumet au balotage. Ça n'a jamais été le gars qu'on pensait qu'il allait devenir, même s'il a remporté la Coupe Stanley à deux reprises. C'est un peu ça, le Marc-André Fleury s'est contesté. Il arrive à Vegas, il amène cette équipe-là en finale de la Coupe cette année, puis par la suite, ben, on décide de préférer Robin Lehner à Marc-André Fleury. Lehner ne connaît pas les mêmes succès que Fleury, puis là, ben, c'est drôle, on est rendu avec un Marc-André Fleury qui est en train de relancer la concession de New York et Chicago. Alors, tout ce qu'il fait, ce gars-là, c'est surnaturel. Ça va devenir un de nos bons athlètes. Ben, il l'est déjà, mais ça va devenir un athlète qui va nous rendre très, très fiers en tant que Québécois d'ici les prochaines années. Alors, chapeau à Marc-André Fleury. Je lui souhaite cette 500e victoire-là ce soir. Puis, honnêtement, là, au Centre Bell, ce soir, comme l'impression qu'il y a plus de monde qui va encourager Fleury qui va encourager le Canadien. Ça de même.
Pas impossible. Pas impossible. Et puis, ben, ça a brassé dans la dernière semaine dans le monde du hockey, dans d'autres équipes. Il y a eu des congédiements, des changements de garde. Puis, ben, c'est le cas d'Alain Vigneault qui est passé à la trappe.
Ouais, ben, j'ai une pensée particulièrement pour lui parce que c'est une personne de l'Outaouais. C'est un gars tellement sympathique, tellement vrai. Je pensais que c'était sa chance d'aller remporter cette fameuse coupe cette année. Dans le fond, cette fameuse coupe-là qui manque à son palmarès. Moi, je pensais que c'était avec les Flyers qu'elle allait le faire. Malheureusement, ça s'est pas passé, mais ça vous montre à quel point la pression est pas juste forte à Montréal, elle est forte dans d'autres marchés. T'sais, on n'a pas été vraiment patient avec Alain Vigneault et Michel Therrien. Michel Therrien aussi a perdu son emploi comme entraîneur adjoint. T'sais, on a montré qu'on n'était pas patient, qu'on voulait gagner du côté des Flyers. C'est un mauvais début de saison. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce mauvais début de saison-là. Pas sûr que ce soit l'entraîneur-chef. Ça m'a attristé de voir que Alain Vigneault a perdu son travail à 60 ans maintenant. Pardon, puis ce qui est intéressant dans son cas, c'est que Mais il est encore payé pour 2 ans. J'espère qu'il va prendre le temps pour lui de jouer au golf, de profiter de la vie, parce qu'au courant des dernières années, ça, tu sais, il s'est promené entre Vancouver, New York, nommez-les, là. J'espère qu'il aura le temps de profiter de sa vie. Ça reste quand même un des meilleurs entraîneurs de la Ligue, un des top 10, là, au niveau des entraîneurs avec le plus de victoires dans le circuit. C'est un entraîneur d'exception. J'ai l'impression que s'il veut se retrouver un travail, il va avoir une autre chance. Ça va peut-être être sa dernière, mais il va en avoir une autre. Je lui souhaite, mais pour l'instant, juste chapeau à Alain Vigneault pour ce qu'il a réalisé au-delà de sa carrière, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un entraîneur va revenir derrière un banc. On ne sait pas si c'est le cas d'Alain Vigneault, mais je trouvais ça dommage, puis ça prouve à quel point c'est pas juste à Montréal que ça brasse. Regardez ce qui s'est passé du côté de Vancouver. L'entraîneur-chef fait son travail, le directeur général aussi, parce qu'il a trop protégé son entraîneur-chef. Et là, on ramène un vieux de la vieille Ambrose Boudreau. On n'a même pas engagé de PG. Ça bouge beaucoup. Mais tu sais, on en a parlé tellement souvent. Puis les auditeurs, vous allez dire que je suis redondant, mais ça reste ça. Hey, mon Dieu, qu'on recycle nos entraîneurs dans la Ligue nationale. C'est incroyable.
Pas beaucoup de nouveaux.
Écoute, on devrait acheter un condo, là, puis c'est tout le temps aux mêmes entraîneurs, parce qu'on sait qu'ils vont repasser dedans, tu sais. Honnêtement, j'étais un peu déçu de voir qu'on a décidé de faire confiance à un autre vieux de la vieille, mais c'est correct, ça fait partie de la Ligue nationale, on dirait, pour l'instant, en espérant qu'Alain Vigneault va faire partie des vieux de la vieille qui vont avoir une autre chance dans un avenir approché.
Ben Olivier Beauregard, bien content que tu sois remis sur pied puis que tu sois là pour nous parler sport, nous relater ces faits-là qui se sont passés dans la dernière semaine. Et c'est un rendez-vous jeudi prochain.
Ben c'est avec le nez encore un peu bouché que je vous dis que j'ai bien hâte de vous reparler la semaine prochaine.
Merci, salut.
Merci, bye-bye.